Radio JV présente Ludographie comparée, une émission proposée par Mathieu Gou. Thème de l'émission.
Cette émission sera consacrée au jeu Super Mario Bros. 3, sorti en 1988 sur Famicom et NES, développé et édité par Nintendo. Il sera opposé aux autres jeux Mario en deux dimensions sortis avant et après ce dernier.
Première partie, présentation et problématique.
L'on cite souvent Super Mario Bros. 3 comme le meilleur Mario en deux dimensions, voire comme l'un des meilleurs jeux au monde. Sans surprise aucune, je n'irai nullement à l'encontre de la Vox Populi. Si Super Mario Bros., premier du nom, a véritablement initié un mouvement populaire envers le jeu de plateforme en deux dimensions, un succès qui ne s'est jamais parfaitement démenti, comme en témoigne la vivacité de la scène indépendante à ce niveau, Super Mario Bros. 3, quant à lui, a été une véritable révolution des acquis de ce dernier et a fait office, en quelque sorte, de chant du cygne pour la Famicom avant l'arrivée de la Super Famicom et de Super Mario World, lui aussi régulièrement cité parmi les ténors du média. Fidèle au principe de suite chère aux jeux vidéo, Super Mario Bros. 3 propose plus de monde, plus d'ennemis, plus de pouvoirs, plus de secrets que son prédécesseur, tout en étant à la fois plus beau et bien plus long. Et la campagne marketing, habilement dissimulée en Occident dans le film The Wizard, l'enfant génial en français, est restée dans toutes les mémoires. Le jeu est cité par le Guinness Book des records comme étant le plus vendu de tous les temps, indépendamment des bundles, et son influence sur l'univers de Mario est réelle, tant les épisodes postérieurs reprendront à leur compte des éléments de ce jeu fondateur, de la découpe en monde thématique jusqu'aux ennemis, dont les Koopa Kids que l'on retrouvera jusque sur Wii U. Mais mon propos ici n'est pas de m'apesantir plus que de raison sur les nombreuses qualités de ce jeu, mais bien d'observer ce qui fait son charme certain et, notamment, un certain balancement ou un certain équilibre trouvé dans deux de ses composants primaires. Et ceci de se dévoiler, comme de coutume dans cette émission, en opposant Super Mario Bros. 3 avec Super Mario Bros., soit le tout premier de la série. Si, en soi, le gameplay de ces deux jeux se fait incroyablement similaire, deux modifications de taille, venues en partie de Super Mario Bros. 2, ou Super Mario USA au Japon, viennent dynamiter le principe initial. D'une part, la possibilité pour Mario de revenir sur ses pas et de ne plus être contraint, comme jadis, par le bord gauche de l'écran de jeu. Cette faculté permet alors aux développeurs de créer des niveaux labyrinthes, où l'on doit parfois revenir sur ses pas pour progresser, à l'instar de la forteresse aux deux faces du monde 8. D'autre part, la possibilité offerte aux joueurs de voler grâce à la feuille, au costume de Tanuki ou à la P-Wing, et d'étendre le domaine des possibles en hauteur, voire, comme on le verra de façon plus systématique dans Super Mario World, d'effacer toute une portion d'un stage ou un stage entier par une prise d'élan adéquate. Cette capacité, outre de s'affranchir de certains niveaux retors, permet surtout de dissimuler nombre de zones secrètes, de vies, de tuyaux, de raccourcis divers, récompensant ainsi le joueur qui se fait un devoir de tout explorer. J'ai souvent été frappé, en achetant des magazines qui proposaient des solutions de Super Mario Bros. 3, de voir à quel point pas un ne référençait les mêmes secrets, les mêmes blocs cachés. Il fallait acheter toutes les solutions et toutes les comparer pour avoir le fin mot et, encore, je ne suis pas persuadé qu'il existe quelque part sur Internet un guide parfaitement exhaustif. Quand on voit, récemment encore, qu'un nouveau bug a été trouvé dans le tout premier Super Mario Bros., cela laisse rêveur quant à la capacité du troisième épisode à cacher ses dernières ficelles. On pourrait ainsi résumer ceci par cette idée. Super Mario Bros. 3 est un jeu qui récompense et même encourage l'exploration systématique de ses niveaux. En comparaison, Super Mario Bros., même Super Mario Bros. 2, sont des jeux fort linéaires. Même s'il est des Warp Zones ou des haricots géants, la plupart du temps, le joueur n'a guère la possibilité que d'avancer droit devant lui et de surmonter, les uns après les autres, les obstacles sur sa route. Mais, paradoxalement, ou plutôt intelligemment, Super Mario Bros. 3 ne renie pas plus le besoin de faire preuve d'adresse dans ses stages, le joueur devant tout repasser ses ennemis, les pièges, les gouffres pour progresser. Le résultat est devant nos yeux. Et de façon parfaitement inédite pour cette émission, je m'en vais poser une problématique ici en comment et non en pourquoi, en m'appuyant sur un parti pris que je vais présenter ci-après. Aussi, je poserai le sujet de cette émission comme suit. Comment Super Mario Bros. 3 parvient-il à ménager exploration et exigence du joueur dans un seul et même élan?
Deuxième partie, le gameplay millefeuille.
Depuis des décennies, les journalistes et les spécialistes du média s'accordent toujours à donner aux jeux Nintendo, c'est-à-dire surtout aux jeux exclusifs à leur console, une qualité unique que l'on nomme souvent le gameplay millefeuille. De la même façon que la célèbre pâtisserie, les jeux sont construits en plusieurs couches successives qui viennent se compléter agréablement. L'on peut souvent en dénombrer au moins trois, davantage encore selon certains jeux. Pour illustrer cela, je vais prendre un titre plutôt récent, Punch-Out sur Wii. La première couche renvoie à la complétion normale et naturelle du jeu. Dans ce dernier, il s'agit de combattre les boxeurs les uns après les autres, en s'entraînant, en faisant preuve de ténacité et de courage. Au sein de cette première phase, le joueur, généralement, ne prend guère de risques. Il évite les coups plus qu'il ne les pare, il attend les phases d'ouverture. Rapidement, il ne parvient plus à obtenir les fameuses étoiles qui permettent de lancer des super coups, et les derniers combats, contre Super Macho Man ou Mr. Sandman, de se remporter sur le fil du rasoir après avoir été mis KO plusieurs fois. Une fois le jeu terminé une première fois, la deuxième couche de gameplay survient dans la présence des challenges. Chaque boxeur, effectivement, demande à être combattu avec un certain objectif en tête. Le maître KO en un temps limité, répliquer face à une certaine attaque, trouver X façons d'obtenir des étoiles. Ces challenges semblent très souvent, la première fois, inaccessibles tant on a en mémoire les défaites du premier tour. Mais, à force de patience et en expérimentant des choses car nous n'avons plus, à présent, la pression de l'échec, l'on parvient à faire des miracles. Enfin, la troisième couche de gameplay, non réellement mise en avant dans ce jeu néanmoins, consiste à revenir vers ses adversaires avec l'expérience acquise juste auparavant pour faire le meilleur temps possible. L'on peut croire toutes les ficelles trouvées, mais un tour sur YouTube vous convaincra, au contraire, que l'on ne cesse d'améliorer les temps de plusieurs centièmes de seconde parfois. Complétion. Challenge. Chronomètre. La grande majorité des jeux Nintendo peuvent se réduire, à minima, à ces trois couches. Mario, Zelda, Donkey Kong, Metroid. Si, généralement, les deux premières sont annotées au fur et à mesure, le chronomètre ne l'est pas toujours. Cela n'a pas empêché les speedrunners de le faire, et même de trouver, à leur grande surprise, que les développeurs ont songé profondément à cela, en positionnant les ennemis de façon idoine, et en laissant judicieusement tel ou tel bug qui facilite grandement les choses. Et, ailleurs, comme dans la série des Metroid, une petite récompense, une image de fin, est offerte à celui qui parvient à concilier magistralement ces trois aspects en une seule fois. La chose a été maintes fois reprise depuis, et si Nintendo n'est sans doute pas l'inventeur du système, celui-ci étant déjà présent dans nombre de jeux d'arcade avant leur âge d'or avec la Famicom, il est sans doute aucun celui qui l'a systématisé. L'idée sous-jacente à cela vient du principe de rejouabilité, un concept qui s'est rapidement posé lors de l'époque moderne du jeu vidéo, après le fameux crash des années 80. En effet, auparavant, que ce soit sur console de salon ou sur arcade, le joueur ne s'intéressait surtout qu'au score. Il fallait alors trouver le plus grand nombre d'astuces possibles pour augmenter son capital. Et cela seul suffisait, puisqu'on n'imaginait pas que cette quête puisse avoir une fin, la notion de kill screen étant encore, en ces temps reculés, une légende urbaine, entrevue par l'homme qui a vu Billy Mitchell. Mais lorsque le jeu vidéo, comme je l'avais indiqué dans une précédente émission, se mit à scénariser ses productions, c'est-à-dire à ne plus répéter la même épreuve ad libitum, mais à créer une narration et une succession de stages divers. L'objectif premier du joueur ne fut plus le score, mais bien la complétion de l'histoire. Or, une fois le dernier boss battu et l'histoire terminée, que reste-t-il au joueur? Que lui apporterait, même s'il est des monomaniaques, de refaire immédiatement une partie alors qu'il connaît déjà les pièges, les ennemis, les patterns des boss? À cet instant, le jeu vidéo risquait de devenir moins qu'un objet de consommation, mais bien un amusement jetable, un pop-corn sitôt oublié une fois avalé. Si cela a un avantage certain pour les compagnies, la majorité des joueurs, des enfants pour la plupart, ne pouvaient se permettre d'acheter un nouveau jeu chaque semaine. Et les parents renacleraient sans doute à l'idée d'acheter quelque chose d'aussi fugace. Il fallait alors donner une raison particulière au joueur pour revenir et poursuivre son aventure. Et ce principe de mille feuilles d'aider alors à la pérennité du média.
Troisième partie, l'asymptote de l'ataraxie.
Il est cependant d'une difficulté certaine à créer ce millefeuille. Un équilibre ou une ataraxie, une médiocrité presque stoïcienne, se doit d'être atteint. Accordez une trop grande importance à l'histoire et vous serez contraint d'introduire des séquences scriptées et de mettre en avant la mise en scène au détriment du gameplay. Concentrez-vous sur les challenges et les secrets et vous perdez la ligne directrice, perdez le joueur dans de multiples objectifs secondaires et diluerez lourdement le plaisir de jeu. Soyez tout porté sur le temps ou le score et vous obtiendrez une construction artificieuse et linéaire des niveaux rendant ennuyeuse leur traversée. Aussi, il ne s'agit pas, comme on pourrait le supposer avec cette appellation pâtissière, de superposer les couches sans se préoccuper du reste, mais bien de les juxtaposer et de les faire s'interagir intelligemment au point de donner l'impression de ne pas avoir un, mais bien trois jeux distincts. Prenons The Legend of Zelda. Cherchez tous les secrets, les cartes de cœur, les coquillages ou que sais-je encore. C'est exploiter des pouvoirs et des objets peu utiles pour la complétion de la quête. Et se risquer à faire un Three Hearts Run, c'est mieux étudier les mouvements des boss et prendre des chemins de traverse pour éviter des phases fort ardues. Comme bien souvent, la perfection n'existe pas. Tout au plus peut-on l'approcher autant que faire se peut, sans pour autant l'atteindre. Et Super Mario Bros. 3, à mon humble avis, d'être le passant considérable, celui qui, à ce qu'il me semble, a su mieux qu'un autre concilier ces trois aspects. Reprenons-les alors successivement et tâchons de voir comment ils parviennent à le travailler ensemble. Tout d'abord, la complétion. Avec ses 8 mondes et ses dizaines de niveaux, Super Mario Bros. 3 offre un challenge de taille, augmenté originellement par l'absence de pile de sauvegarde dans la cartouche. Le génie du jeu, en comparaison de Super Mario Bros. Premier du nom, fut de faire en sorte que chaque monde soit dédié à un thème ou à un environnement spécifique. La plaine, le désert, la glace, le feu. Ce jeu initia alors un modèle qui fut repris jusqu'à la Lee dans les itérations ultérieures. Et l'on ne compte plus les jeux Mario, notamment la famille des New, qui reprennent exactement cette découpe. Cette évolution, qui n'est pas seulement graphique, au contraire du premier Mario ou même de Super Mario Bros. 2, où seul le monde de glace se distingue réellement des autres, impose aux joueurs de perpétuellement revoir ses acquis et d'exploiter au mieux les pouvoirs à sa disposition. Là, le costume de grenouille est nécessaire. Ici, c'est la fleur de feu qui vient à notre rescousse. Ailleurs encore, qu'il serait bon de débuter la partie avec une étoile d'invincibilité. Le principe de complétion, ainsi, s'appuie sur celui de variété. Il ne s'agit pas d'introduire uniquement de nouveaux ennemis ou un nouveau décor, mais bien d'entièrement repenser la maniabilité et la façon dont le joueur progresse. Ensuite, les secrets. Comme je l'ai dit en introduction, le jeu présente d'ores et déjà de nombreuses zones cachées, des tuyaux dérobés, des raccourcis divers et variés. Les flûtes enchantées, qui permettent de voyager de monde en monde et qui prennent le relais des Warp Zones de Super Mario Bros., constituent sans doute le plus célèbre de tous. Leur rôle est identique. Permettre au joueur qui trébucha dans un des derniers mondes de revenir rapidement sur les lieux de son échec. Le film The Wizard, dont j'ai parlé plus haut, en montrant clairement comment atteindre l'une de ses flûtes, permet alors de rendre aussi évidente son obtention que l'emplacement de la Warp Zone cachée du monde 1-2 de Super Mario Bros., qui fut, rappelons-le, un secret fort tardivement partagé dans toutes les cours de récréation. Enfin, le challenge. Outre la difficulté propre au jeu lui-même, les niveaux des différents mondes ne sont pas ordonnés de façon linéaire. Et la carte, une première pour un Mario, de permettre de choisir le chemin le plus court jusqu'au château, au détriment, souvent, d'une plus grande difficulté lorsqu'il ne s'agit pas, comme dans le troisième monde, de faire preuve de discernement pour activer les bonnes passerelles au bon moment. Déjà, et à peine cet inventaire effectué, les interconnexions, pour ainsi dire, évidentes de ces trois couches apparaissent. La complétion est intimement liée au challenge, dans la mesure où l'on choisit ses stages, mais où certains passages nécessaires et ardus se doivent d'être faits. En cela, placez la série des tanks dans le monde 8, ou les stages plante piranha dans le monde 7, en des endroits où l'on ne peut les outrepasser, en les liant notamment à des portes verrouillées, permet d'exiger aux joueurs une grande adresse du pad et de conserver l'exigence d'adresse demandée depuis le début de la saga. La même chose peut se dire, du reste, des passages obligés, tels les forteresses, les frères marteaux ou les vaisseaux volants. Si ceux-ci, ainsi, reprennent parfois les décors des mondes où ils prennent place, ils présentent surtout les mêmes types de pièges, les mêmes obstacles, les mêmes ennemis, souvent exclusifs à ceux-ci, tels Cléo la clé ou les boues, même si on en apercevra certains occasionnellement dans certains stages normaux du monde 8. Ces points d'étape permettent alors de concilier adresse et challenge de façon évidente. Les secrets de même de ne pas servir uniquement à récupérer des vies ou des objets. Souvent, ils font office de raccourci et permettent d'atteindre directement la sortie du niveau lorsqu'ils ne permettent pas d'obtenir une flûte magique. Finir le jeu rapidement, de là, c'est trouver ces raccourcis et, plus encore, faire preuve d'adresse pour les atteindre, certains s'avérant très difficiles à trouver. L'équilibre est alors fait ici, en faisant en sorte qu'il soit impossible d'accomplir l'un des éléments du millefeuille sans commencer à en accomplir un autre. Une autre astuce permettant alors aux joueurs de comprendre que le jeu qu'ils parcourent est bien plus profond qu'il n'y semble.
Quatrième partie, choisir, donc exclure.
Mais si le modèle que j'ai présenté ici était aussi parfait qu'il puisse l'être, comment se fait-il, à ce que je disais, qu'il ne fût pas reproduit par la suite? La question est légitime, et je pense pouvoir apporter là un début de réponse, notamment en opposant Super Mario Bros. 3 à Super Mario World d'une part, à la série des New Super Mario Bros. De l'autre. Ce qui, à mon sens, a permis à Super Mario Bros. 3 de trouver cet équilibre, c'est encore le moment du temps où il est apparu. Et au risque de donner dans quelques anciennes, de croire que c'est l'amélioration graphique de nos consoles qui a perdu la série des Mario, la même chose pouvant se dire, je pense, concernant les épisodes en 3 dimensions. À l'instant, je parlais de l'équilibre délicat que les développeurs devaient atteindre pour construire un millefeuille agréable et constitutif du média. Notamment, je mettais en avant l'idée qu'une prise en compte trop pesante de l'histoire se faisait au détriment du gameplay. Mais ce n'est pas nécessairement que cela doive passer par des cinématiques ou des séquences scriptées. Et j'ai déjà montré, en parlant qui de Diablo, qui de Zelda ou encore de Metal Gear Solid, que l'espace, les règles du jeu ou les objectifs peuvent être narratifs en eux-mêmes, exploitant alors une grammaire propre aux jeux vidéo de la façon la plus intelligente qui soit. Mais choisir de privilégier cet aspect, dirais-je, expressif de la langue vidéoludique, c'est exclure sa dimension poétique. C'est là un principe fort connu en linguistique et dans l'étude des langues. Narrer, c'est tendre vers l'exactitude langagière, et, de là, éliminer les images, la poésie, la beauté de la langue. Au contraire, faire de la poésie. C'est mettre de côté, de façon plus ou moins évidente, toute narration et chronologie au profit de l'affect. Bien malin qui saurait, en première lecture, résumer une saison en enfer de Rimbaud, et bien curieux celui qui verrait de la grâce dans un article du journal officiel. Autrement dit, et si l'on se replace dans le cadre du jeu vidéo, il est un vase communicant en quelque sorte. Et plus il est d'éléments qui peuvent être interprétés du côté narratif, plus on restreindra les possibilités de gameplay et l'expérimentation. L'exemple canonique en cela serait les jeux de David Cage, Fahrenheit ou Heavy Rain. Mais même Metal Gear Solid, qui pourtant semble donner une aussi grande importance et à son histoire et au gameplay, empêche le joueur d'accéder ci et là à certaines zones et limite de temps à autre les possibilités du héros pour éviter d'outrepasser un combat de boss ou une zone importante. Dans le cadre de la saga Mario, cet équilibre a été rompu d'une part en poussant encore et toujours la finesse graphique, d'autre part en faisant en sorte que les différents mondes soient interconnectés de façon physique. Dinosaur Island, dans Super Mario World, où les vastes mondes des New Super Mario Bros. Composent un seul et même ensemble monolithique. La construction géographique de là empêche l'apparition de warp zones magiques, et le système même de téléportation est mis à l'amende. L'on crée à présent des voies alternatives, dessinées sur la carte, voire un monde entièrement nouveau, comme la Star Road, qui fait office de hub reliant les différents environnements. Une flûte magique ne peut exister dans ces jeux. Elle irait à l'encontre de la logique du level design. De la même façon, cet ensemble monolithique, et ce malgré la permanence de mondes thématiques, oblige les développeurs et les graphistes à créer des niveaux seuil, reprenant un peu du thème du précédent ou, pire encore, et comme cela s'observe dans Super Mario World, d'homogénéiser lourdement les décors et les ennemis afin de créer une unité de bon aloi. La même chose s'observe par ailleurs dans les jeux Mario en trois dimensions. Si Super Mario 64 peut se permettre, par son système de tableaux, de créer des environnements fort distincts en nature, Super Mario Sunshine ne peut se le permettre. Et de même, Super Mario Galaxy oblige à conserver une certaine unité, alors que sa suite est, même, la série des 3D Land et des 3D World sera, par l'intermédiaire d'une carte plus abstraite, plus libre dans l'enchaînement de ces niveaux. Cette continuité géographique et environnementale rend alors délicate la juxtaposition d'éléments disparates et, au sein même des niveaux, oblige à mettre l'accent sur le principe de parcours et de progression. Les stages deviennent alors bien plus longs et s'étendent de façon privilégiée en longueur en délaissant les secrets et les zones bonus. Alors que Super Mario Bros. 3, tout comme Super Mario 3D Land World par ailleurs, permettait à ces stages de rester fort courts, mais de multiplier, à la nausée presque, les blocs cachés, les tuyaux en hauteur, voire les chemins alternatifs au sein d'un même niveau, Super Mario World et ses suites créeront le principe de double sortie. L'objet de l'exploration n'est plus, alors, d'avoir des vies ou des bonus, mais bien de créer un chemin autre. Et même, le jeu, bien souvent, d'indiquer d'une façon ou d'une autre cette possibilité, la recherche méthodique des environnements n'étant plus systématique. Autrement dit, et malgré la proximité formelle que l'on peut lire dans la série des jeux Mario en deux dimensions, il est possible en réalité de considérer deux grandes familles. La première, composée surtout de Super Mario Bros. Et des deux Super Mario Bros. 2, sont surtout des jeux d'adresse, à la découpe linéaire malgré leur warp zone, qui s'apparentent à des collages d'épreuves successives sans queue ni tête. La seconde, composée des épisodes sortis depuis Super Mario World inclus, sont des expériences de découverte d'univers et de mondes, où l'adresse a été plus ou moins exclue au profit de l'imprégnation d'une atmosphère, de ses ennemis et de son identité. Et au milieu, le cousin terrible, l'enfant génial, qui fait peur volontiers. Super Mario Bros. 3, qui réussit à conserver l'adresse de son premier lignage et à créer l'innutrition magique de ses enfants. Comme souvent cependant, c'est un cas unique qui ne peut être reproduit. Comme le dit l'adage, la perfection est atteinte non quand il n'est rien à ajouter, mais bien quand il n'y a rien à retrancher.
Cinquième partie, la loi unique.
S'il fallait alors, à mon humble avis, élire un représentant non pas du jeu vidéo en son ensemble, la tâche, comme dans n'importe quel autre média, me semble inaccessible, mais de Nintendo en particulier, j'irai très volontiers du côté de Super Mario Bros. 3. Il ne s'agit pas uniquement, le concernant, d'une forme d'intemporalité ou de permanence, car Big N nous a montré depuis longtemps que leurs jeux, les Zelda, les Mario, les Metroid, pouvaient répondre à cette qualité et résister, plus que d'autres, aux affres du temps. Il me semble que Super Mario Bros. 3 représente paradoxalement une sorte de point d'arrivée et non un point de départ. Il n'est d'ailleurs pas interdit de le voir, et ce malgré sa date de sortie dans l'économie de l'histoire de la NES qui se vendit jusqu'au mi des années 90, comme le champ du cygne de la console, comme je le disais plus haut. Mais il est aussi, quelque part, et je m'en rends compte de plus en plus, le champ du cygne du jeu vidéo ou, du moins, d'une certaine idée du jeu vidéo. Comme je l'ai dit plus haut, le gameplay millefeuille qu'il incarne à la perfection a été créé pour sortir le média de la torpeur arcadienne qui aurait pu précipiter sa chute. Mais en devenant, alors, son représentant absolu, le magister Dixit, ou le chef-d'œuvre inconnu miraculeusement dessiné, il était impossible à quiconque, pas même à Miyamoto, de passer après lui. Le jeu vidéo est un média technologique, je l'avais dit lors de mon émission consacrée à Beat the Beat, et son avancée naturelle a permis des jeux plus beaux, des musiques plus profondes, des animations plus fluides. Mais il est une autre vérité à connaître sur le génie humain, et ne diront le contraire que ceux qui jamais n'ont cherché à créer. La contrainte nourrit l'inspiration. Et c'est bien parce que la technique, parce que les graphismes, et parce que le support était limité, que les développeurs durent faire appel à de l'astuce et à penser de façon latérale. Nintendo s'en souviendra ultérieurement pour la DS et la Wii, l'expérience de la N64 leur ayant laissé un goût amer en bouche. Aujourd'hui cependant, l'asymptote est biaisée. Il y a un handicap. Il faut certains graphismes. Il faut certaines animations pour que l'œil se pose ou daigne se poser sur le produit fini. Même les jeux indépendants qui courbent les chines devant certains pixels, les VVVVVV ou les FEZ, d'avoir qui une musique impossible à refaire sur C64, qui des effets de rotation inimaginables même à l'époque des 16 bits, qui se risquerait à jouer parfaitement le jeu du rétro aujourd'hui. Super Mario Bros. 3, en cela, est magistral et unique. Arrivé au bon moment, il est un peu ce que serait Chantons sous la pluie au cinéma, ou la légende dorée en littérature. Une étape majeure de l'histoire d'un art ou d'un média, qui prend parfaitement conscience des choses passées et croit arriver au bout de son parcours. Et les turiféraires, alors, de ne plus se risquer à la copie, mais de refaire du neuf. L'éclair du génie a éclairé d'une chaude lueur l'ensemble de la création, mais l'on ne saurait reconstruire sur le cratère formé. Et pour citer ce certain poète, c'est cassé. Tout est à refaire.